Bonjour et bienvenue dans Du vent sous la robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Stéphane Ballaire. Avant de vous dire de quoi on a parlé avec Stéphane, je voudrais simplement ajouter une petite précision, c'est que depuis cette interview, Stéphane a intégré le cabinet De Gaulle-Fleurance en tant qu'avocat of counsel et s'occupe notamment de promouvoir la stratégie et le développement du cabinet. Donc, avec Stéphane, on a parlé d'innovation dans la formation des avocats et des juristes, notamment au travers du diplôme universitaire Transformation digitale du droit et Legal Tech qu'il a fondé avec Bruno Defins, mais également des compétences de l'avocat et du juriste de demain et de l'évolution de ses métiers. Mais parce que l'innovation réside aussi dans l'engagement et les causes que l'on défend, on a aussi parlé de son combat qu'il mène au travers de l'association Droit comme un H pour faciliter l'accès de jeunes talents en situation de handicap aux professions du droit. Bref, vous l'aurez compris, c'est un épisode qui mêle à la fois technologie et humain, et j'en suis très heureuse. Bonne écoute! Bonjour Stéphane.
Bonjour Laetitia.
Je suis très heureuse de vous interviewer.
Ben écoutez, bienvenue dans cet univers un petit peu original et qui, je crois, en termes d'innovation, puisque c'est votre fond de commerce, doit pas être inintéressant, j'espère.
J'en suis sûre. Donc Stéphane, vous avez plus d'une corde à votre arc. En effet, après une carrière d'auditeur, vous avez été avocat chez EY Société d'Avocats pendant 17 ans, au sein duquel vous avez créé un poste hybride d'associé dédié au développement des marchés et des clients de demain, et au recrutement et à la formation des talents. Vous avez également créé avec Bruno Defins le DU Transformation numérique du droit et Legal Tech de Paris 1 Paris 2, qui est la première formation universitaire dédiée à ces sujets. Mais ce n'est pas tout, vous êtes en effet le fondateur de Droit comme un H, une association qui a pour but de faciliter l'accès de jeunes talents en situation de handicap aux professions du droit. Donc vous soufflez avec tout ça un vent d'innovation sur la formation et le recrutement des talents juridiques de demain. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a conduit à vous intéresser au droit, à l'innovation et à la formation ?
Ben, en fait, je voulais être vétérinaire parce que à l'époque je montais beaucoup à cheval et c'est vrai que j'avais ce grand rêve dans le milieu équin. J'avais fait un stage avec un vétérinaire et donc je rêvais à tout ça, mais j'avais pas compris qu'il fallait être bon en maths ou travailler ses maths pour être un bon vétérinaire. Et c'est vrai qu'après, une fois le deuil fait de cette incapacité à le devenir, il fallait que je trouve quelque chose qui m'intéresse. L'entreprise me fascinait. Et donc, j'ai essayé de trouver une formation en économie et j'ai atterri à Paris 2. Mais j'avais pas compris aussi que pour faire de l'économie, en tout cas à Paris 2, il fallait aussi faire des maths. Et en cours de route, en fait, j'ai fait une rencontre et ma carrière sont souvent des rencontres d'une jeune personne qui avait des problèmes de droit constitutionnel et j'ai découvert cette matière qui culturellement m'était totalement inconnue. Je suis pas du tout issu d'un milieu de juriste et en fait, j'ai une passion pour le droit constitutionnel, le droit public, continuer cette passion pour l'entreprise aussi et puis bah, pour allier le droit public, l'économie, la fiscalité était un élément pas stupide. Et donc, bah, j'ai continué à Paris 2 avec en parallèle une école de commerce, l'Institut de droit des affaires. J'ai commencé comme collaborateur de cabinet où je faisais la restructuration d'entreprises et de la fiscalité. Et puis, mon patron s'est mis à faire de l'immobilier. Moi, l'immobilier, c'était pas du tout mon trip. Et les régulateurs, donc la commission des opérations de bourse, cherchaient quelqu'un. Donc, je suis allé voir. J'ai rencontré plein de gens, notamment le directeur des affaires comptables. Et on voyait à l'époque beaucoup de problèmes dans les comptes des entreprises. Et il m'a dit, pourquoi, puisque vous avez fait une école de commerce, faites du droit, pourquoi vous n'avez pas travaillé avec des commissaires aux comptes? Et c'est comme ça que j'ai rejoint Ernst & Winnet pour faire l'audit. Et puis, bah, je me suis dit, puisque je suis là, autant passer mes examens d'expertise comptable de commissaire aux comptes. Puis voilà, cette maison a beaucoup muté, avait quatre métiers entre le conseil, le chiffre, le droit. Et en fait, en ayant fait un bout de chemin dans le chiffre et dans le conseil, en travaillant sur les problèmes de gouvernance, de risk management, j'étais de plus en plus au contact avec des avocats et ils m'ont proposé de revenir à ce métier que j'ai redécouvert avec un enthousiasme et une volonté certainement beaucoup plus déterminée que quand on sort de l'école d'avocat. On a beaucoup de rêves, mais on voit pas forcément ce qu'il y a derrière ce métier. Et j'ai créé une direction du développement, parce que faire de la technique, même si vous gardez toujours une bonne culture et que le droit comptable, c'est d'abord du droit avant d'être de la comptabilité, et que la fiscalité est un bon lien entre la finance et le droit, il n'était pas question de se remettre à faire des consultations, mais de créer une direction du développement. et d'essayer d'imaginer dans un cabinet qui est allé jusqu'à 700 avocats, quels sont les clients demain, comment va évoluer le marché, comment va évoluer le cabinet, et puis comme on met au service de nos clients des femmes et des hommes, leur formation et leur adéquation par rapport à cette demande est extrêmement important. Et au bout de quelques années, mes associés m'ont demandé de prendre en charge la partie de sourcing des jeunes talents et puis d'éducation, parce que j'ai découvert que l'université que j'avais faite était restée un petit peu en même état, alors que la demande sur le marché était compliquée. La création du DU Transformation Digitale du Droit et Legal Tech de Paris 2 est un exemple. On n'arrivait pas à trouver des avocats acculturés et entrepreneurs. C'est-à-dire, le problème, c'est pas de faire du droit. Les facs font vraiment très bien leur job et on trouve de très bons niveaux de juristes en France et ils sont enviés à l'étranger. Mais c'était de dire, voilà, il manque cette dimension entrepreneuriale. Notre droit pour être acheté par les entreprises doit être beaucoup plus accessible et doit être un véritable service. Et c'est pas forcément mal d'être un service. C'est une profession qui doit évoluer. C'est d'entrepreneuriat et on peut plus le faire comme on le faisait avant où on vissait sa plaque en profession libérale et tout allait bien.
Et donc, quand vous avez créé justement ce DU Transformation Numérique et Legal Tech, quelles compétences vous vouliez transmettre aux étudiants de votre DU ?
En fait, ce qui était très important, c'était la capacité à travailler ensemble. C'est vrai qu'à l'université, maintenant, dans beaucoup de Master 2, vous commencez à avoir des exercices de groupe. Mais en tout cas, ces choses n'étaient pas systématiques. Et donc, on a voulu, avec Bruno Defin, mettre à l'honneur à la fois des qualités d'entrepreneuriat dans ce monde du droit, et puis d'éduquer sur le digital, parce qu'à l'époque où on a démarré le projet, c'était encore l'époque des braconniers du droit, c'était la difficulté pour des avocats à parler avec des ingénieurs. Certains voulaient carrément que l'on apprenne à coder. Avec Bruno, on s'est dit, ce qu'il faut, c'est d'abord apprendre à discuter avec des codeurs, comme on doit apprendre à discuter avec des économistes.
Oui, ou
Bruno
toute autre
est un
profession.
Économiste, voilà. Et moi, j'étais dans un univers, un cabinet où à la fois les nationalités, les compétences étaient tellement différentes que c'était vraiment cette richesse. Et on s'est dit, en fait, avec ce diplôme, il faut qu'on le fasse en cours du soir, il faut qu'il y ait une diversité, c'est-à-dire qu'on mélange à la fois des gens qui sont en formation continue, des gens en formation initiale, qu'on ait des jeunes, qu'on ait des vieux, qu'on ait des gens qui viennent d'horizons divers et qu'ils aient une seule passion, c'est comment est-ce qu'on peut contribuer à cette transformation du droit. Et notre job, c'est de donner des outils. Et après, on s'est dit, plutôt qu'un examen de sortie, vu le jury que l'on a, parce qu'on a un corps professoral, vous avez 21 patrons un peu emblématiques de Legal Tech de France, donc c'est quand même pas mal, qui composent une partie du jury. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'expose pas nos étudiants, parce qu'on en est fiers. Et on a monté le technodroit 9-2, alors 9-2 parce que 92 rue d'Assas et parce que 92 le barreau des Hauts-de-Seine auquel j'appartiens et des bâtonniers qui ont été top. Et voilà, on a essayé de faire quelque chose qui était différent.
Et donc technodroit 9-2, c'est un concours de pitch ?
Exactement, alors ils ont 5 minutes de pitch. La seule chose qu'on demande, c'est qu'ils aient moins de 2 ans d'expérience professionnelle. Donc vous avez des élèves avocats. Vous avez des étudiants, vous avez des ingénieurs. Et en fait, il faut qu'ils viennent soit avec un projet de Legal Tech, soit avec un projet de transformation digitale. C'est-à-dire, il y a des directions juridiques, il y a des cabinets d'avocats qui veulent se transformer. Et donc, il y a un noyau dur. On a déjà nos étudiants du DU qui, dans les 6 premiers mois de leur formation, apprennent la gestion de projet, là, sur des projets imposés, des équipes imposées. Donc, on apprend les fondamentaux. Et les 6 mois suivants, qui vont jusqu'au technodroit,
c'est
en fait,
la conception
ils font
du projet.
Leur projet. À la fois, ils le conçoivent eux-mêmes, à la fois, ils prennent l'équipe eux-mêmes, donc ils choisissent leurs camarades. Et en fait, tous les ans, ça devient de plus en plus élaboré. Et là, il y a déjà 2 projets qui ont des partenaires extérieurs. Donc ça, c'est la première fois que ça nous arrive. On en a un de l'année dernière qui a été incubé dans l'incubateur de Paris 2.
Je trouve ça bien qu'il y ait à la fois les étudiants du DU qui ont conçu un projet et en même temps d'ouvrir aussi à d'autres personnes, d'autres entités. Ça crée une diversité qui est tout à fait souhaitable.
C'est cette conviction que la diversité et l'inclusion, faut la vivre et être contrarié avec et la surmonter pour que ça vous apporte quelque chose de différent, ça vous apporte des perspectives et une richesse. Et c'est de se dire, en fait, de cette confrontation naît la lumière. Et en fait, on pourrait rester dans notre petit coin à Paris 2 et se dire qu'on est les rois du pétrole. Mais c'est vrai que quand on se confronte à l'extérieur et qu'on voit la véritable hiérarchie, à ce moment-là, soit on peut se remettre en question, soit on est sur un monde ouvert. Et donc, ça démontre qu'il y a une vue qui est autre chose que celle des professeurs, qui est celle du marché. Et c'est à nous, les anciens, entre guillemets, de les aider à faire que ce métier, qui est le plus beau métier du monde, mais ça, je suis pas objectif, perdure et continue à être encore plus beau qu'il ne l'était.
Et justement, pour ça, au sein du DU, comment vous avez organisé la formation? Par exemple, quels enseignements ils ont? Quelles matières? Quelles compétences?
Alors, on est parti du fait que pour arriver à avoir une bonne idée, il fallait la monétiser. Donc, ça veut dire connaître le marché. Donc, on a la chance avec Bruno d'avoir la star des interactions entre économie et droit et donc d'avoir un module de connaissance du marché du droit qui est extrêmement approfondi. On a toute une partie marketing. Le marketing, on l'apprend pas à la fac de droit. Enfin, le marketing de service est relativement peu enseigné. Et donc, nous, on a développé cette spécificité, on le fait avec les gens de Lefebvre-Sarru. Et ce que l'on fait, en fait, c'est que ce cours, en plus, en parallèle, les étudiants ont en plus en ligne de mire leur projet. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent ajuster en fonction de ce qu'on raconte, nous, les enseignants, pour essayer de constituer leur projet. On a la chance d'avoir Sumi Saint-Auguste, donc qui est la responsable de l'innovation de Lefebvre-Sarru, et Marie Potel-Saville, qui est le fondateur d'Amourabi, d'avoir les stars du legal design, du design thinking. Et pareil, en fait, ils utilisent aussi, au-delà des savoirs, ces connaissances qu'ils mettent en application avec elles sur leurs projets.
Donc il y a une mise en pratique aussi.
Donc, voilà, c'est l'enseignement pour grands. C'est comme les écoles d'avocats. En fait, c'est vraiment on vous apprend un métier. Avec le Covid, ils ont appris le travail à distance, mais du coup, ils apprennent à utiliser des miroirs, des systèmes de co-création. Et c'est vraiment à chaque fois, on vous donne la théorie, mais immédiatement, on la met en pratique.
Est-ce que vous leur faites prendre aussi en main des outils digitaux lors des interventions de LegalTech?
Bien sûr, on a même carrément cette année des équipes de programmeurs qui travaillent sur risk management, compliance et tout. Donc, on a des gens qui programment, on a un ingénieur. On voudrait augmenter ce nombre d'ingénieurs parce que c'est extrêmement important. Il est très sollicité par l'ensemble de l'équipe. Mais après, c'est aussi ce qui a donné l'idée des partenariats. Donc, il y a deux partenariats qui ont été noués par les équipes, pas par l'université, pour avoir cette solution par rapport à la technique. C'est vrai que j'aimerais beaucoup qu'on puisse travailler avec une école d'ingénieurs qui partage les mêmes valeurs et que l'on puisse du coup aller plus loin et que l'on puisse accueillir dans le programme des ingénieurs et que l'école d'ingénieurs puisse aussi accueillir des juristes et comprendre que le droit, c'est un petit peu plus que la protection de la propriété intellectuelle. Il faut qu'on arrive à pas faire peur aux écoles d'ingénieurs quand vous dites le mot droit. Et en fait, c'est à nous de faire le premier pas. Parce que honnêtement, c'est beaucoup plus dur quand vous êtes juriste de construire des fusées, alors que quand vous construisez des fusées, vous avez une logique qui fait que certains orientateurs en terminale devraient arrêter de dire « t'es bon en maths, tu vas faire une école d'ingé, t'es bon avec les lettres et tu vas faire du droit ». Parce que un juriste, c'est d'abord quelqu'un qui raisonne avec de la logique, et la logique, c'est plus dans les maths que dans la beauté de Baudelaire.
C'est vrai.
Et quand on travaille sur l'innovation, donc moi j'ai la chance aussi d'animer des cours d'innovation à l'école d'avocats de Versailles, à l'EDAC, et en fait on apprend un peu que c'est une posture révolutionnaire, ce qui fait peur. L'innovation, ce sont des chemins qui sont un petit peu différents. Les clients de demain, quelquefois, quand vous arrivez et vous dites ben voilà quelle va être la problématique, les gens vous regardent un peu bizarrement. Et il faut tenir pendant 2 ou 3 ans le marché pour que ça se déclenche. Et après, vous allez avoir les investissements. Et c'est ça, cette posture qui est assez compliquée en fait en termes d'éducation à transmettre, parce que c'est une grande prise de risque. À une époque, ben on l'a vu avec le Covid, où les gens veulent encore de moins en moins de risques. Et c'est ça la difficulté, c'est que les métiers du droit deviennent de moins en moins establishment et de plus en plus entrepreneuriaux, avec une image et une perception qui peut-être est encore, quand vous regardez le traitement télévisuel, et c'est comme ça que beaucoup de jeunes se font une idée de la profession, et le talent de notre confrère Dupond-Moretti, mais il est unique et il n'y a que lui qui peut faire tout ça.
Oui, effectivement, c'est pas la représentation du métier.
Mais c'est bien parce qu'elle fait rêver.
Mais oui, effectivement. Mais bon, après, il peut aussi y avoir des désillusions entraînées par ça, justement. Et les personnes qui suivent votre DU et qui sont justement dans la vie active, qu'est-ce qu'elles viennent chercher? Est-ce qu'elles ont des projets liés à leur poste actuel? Pourquoi elles reprennent?
Alors,
ce
on DU a vraiment de tout. On a des évolutions, des gens qui viennent pour avoir un plus de formation professionnelle, des gens qui, quelquefois, sont mandatés pour venir bousculer leur direction juridique pour contribuer à l'évolution et la digitalisation de la direction juridique et qui, en fait, parce qu'ils ont eu aussi la possibilité d'imaginer un autre projet, peuvent revenir avec l'envie de bousculer, mais aussi se dire bah finalement s'ils veulent pas être bousculés, contrairement à ce qu'ils demandaient, j'ai un projet qui est à côté et qui pourrait naître. Et donc on a des gens qui sont repartis et qui transforment leur direction juridique ou leur cabinet d'avocat. On a des gens qui sont repartis, qui ont commencé à le faire, mais qui en parallèle montent leur projet d'entreprise. On a des gens qui sont revenus parce qu'ils sont fidèles, mais qui vont créer leur entreprise. Et puis alors, il y a un cas aussi d'intrapreneur, c'est-à-dire il est revenu, on lui a dit « bah écoute, pourquoi tu crées pas ton business ?»
Et pour les étudiants qui cherchent ensuite du travail, quel retour vous avez de la différence qu'il peut y avoir dans leurs compétences, mais appréciées par un recruteur, que ce soit un cabinet d'avocats, une entreprise ?
Alors, quand vous regardez, donc ceux qui étaient avocats sont souvent redevenus avocats. Alors, je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais c'est la vraie vie. Et après, suivant le modèle du cabinet d'avocats, c'est vrai que c'est un modèle assez conservateur et que la production génère un chiffre d'affaires et une marge qui fait que on peut avoir la tentation de distribuer cette marge ou alors être raisonnable et investir pour l'avenir. Alors, c'est vrai que quand vous arrivez et que vous voulez faire de la transformation et de l'investissement, parce que le digital, ça coûte quand même un petit peu, hein, c'est un investissement pour un cabinet et c'est une manière de travailler différemment. Donc, c'est vraiment un exercice de change. Donc, c'est vrai que du coup, derrière, quand vous arrivez, vous sortez du DU et que vous avez cette mission de transformation, il y a quand même dans un cabinet d'avocats et même dans une direction juridique, une pression qui va être assez forte parce que vous allez faire changer les gens. Quand vous regardez les anciens diplômés du DU, ils sont à peu près dans toutes les legal tech qui sont en vue. Et aujourd'hui, si vous prenez l'annuaire des anciens, en fait, vous en avez une grande majorité qui travaille dans des legal tech
et
qu'on recroise au village, c'est plutôt sympa.
Et donc peu dans des cabinets d'avocats et des directions juridiques.
On a moins de nouvelles peut-être.
Et quelles compétences vous semblent vraiment hyper importantes à développer, à acquérir et quelles seront celles qui seront les plus recherchées dans le domaine du droit ?
Il faut vraiment toujours et encore plus avoir ce niveau technique d'excellence. Les clients sont pleins de contradictions. Ils veulent à la fois des gens qui répondent à tous leurs problèmes et à la fois avoir l'hyper spécialiste parce que notamment dans les grandes entreprises, ils sont de plus en plus équipés avec des juristes de très bon niveau. Donc ça veut dire que ce niveau technique ne va faire que, entre guillemets, empirer. On est payé pour notre expertise. Donc il faut cette expertise. La seule chose, c'est qu'avant, elle était suffisante pour vivre. Aujourd'hui, c'est le début du chemin et donc il faut l'enrichir. Et il y a une dimension, moi, je trouve qui manque et qu'on n'enseigne pas assez à la fac, c'est le sectoriel. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a peut-être pas un droit du luxe en tant que tel. Il y a quelques disciplines juridiques ou fiscales plus sollicitées. Mais après, surtout, ce qui est important, c'est quand je discute avec mon conseiller juridique fiscal ou social, qu'ils connaissent mon activité. Et c'est vrai que quand vous êtes parfumeur, quand vous êtes dans la distribution, il y a des usages, mais au-delà des usages juridiques, des manières de faire du business qui font que il y a des jours, vous dites des choses qui sont très justes au niveau juridique, mais qui au niveau business sont totalement débiles, quoi. Si vous prenez toute la partie compliance, qui peut être un pensum, on peut gagner de l'argent, gagner de la sécurité avec la compliance. La seule chose, qu'il faut le faire intelligemment et se dire que les boîtes, elles sont pas payées pour faire de la compliance, elles sont payées pour faire du business et être compliant, ce qui est un peu différent. Et le driver, c'est d'abord le business. Donc, c'est à nous d'imaginer comment est-ce que un opérationnel qui fait du droit sans le savoir va pouvoir accepter des solutions quelquefois qu'il comprend un peu contraignantes et qu'il faut qu'on lui explique et qu'on lui explique de manière abordable. Et l'intérêt du design thinking ou du legal design, c'est un des éléments. La connaissance du digital, c'est aussi la capacité d'embarquer ces éléments de compliance qui sont exigés par certaines agences. Avoir un flic derrière soi, économiquement, c'est débile. Et deux, ça fait pas progresser. Par contre, si vous arrivez à éduquer les gens pour qu'ils comprennent cette règle, qu'ils l'appliquent et qu'ils vous donnent aussi des éléments pour alerter le législateur qui, quelquefois, va un petit peu loin quand même dans sa réglementation, c'est cette capacité de dialogue qui va du coup bien au-delà de la technique parce que ça veut dire qu'il faut que vous soyez pédagogue. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez une flexibilité dans votre manière d'être pour vous dire que même si vous êtes dans la même entreprise, en fait, le type qui est en face de vous, c'est un opérationnel, c'est un client de votre direction juridique. C'est un client un peu spécial parce qu'il est captif, il n'a pas le choix. Donc, s'il n'est pas content de vous, en plus, il n'a même pas le choix d'aller ailleurs. Donc, à la limite, c'est un client encore plus compliqué que dans un cabinet d'avocats où, si vous avez du talent, vous pouvez choisir vos clients. Et c'est tout ça, en fait, qu'il faut qu'on arrive à faire apprendre aux jeunes juristes pour demain. Et en fait, la puissance de l'avocat ou du conseil, c'est d'arriver à anticiper c'est d'avoir un coup d'avance. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Il y a un deuxième élément qui, je crois, de plus en plus présent, c'est la capacité de résilience. C'est une profession qui est assez dure parce que vous avez un client en face de vous et sauf à être incontournable ou d'avoir des relations très proches avec vos clients, et ça devrait s'apprendre hein, aussi chez un bon avocat ou un bon juriste, ben c'est vrai que c'est pas facile de dire non. La crise du Covid va secouer quelques cabinets qui vont être remis en cause sur leur modèle de gestion financière. Donc c'est vrai que la capacité de résilience, ça va être comment je redémarre avec ce genre de choses. Et c'est peut-être plus violent que ça ne l'était avant. Donc c'est vraiment un élément important. Et puis après, c'est beaucoup finalement de créativité. C'est un élément important parce que il faut qu'on ait la capacité d'imaginer le droit vis-à-vis de vos clients. Imaginez toutes les questions que vous pouvez avoir, tous les scénarios, tous les ajustements possibles, toutes les astuces. Donc c'est un métier de créatif en fait. Et c'est pas très intuitif parce que finalement on vous apprend des règles,
oui.
On vous apprend un syllogisme. Et en fait la valeur ajoutée c'est comment, je vais pas dire je contourne, mais en tout cas...
Oui, c'est trouver des solutions.
Voilà, j'applique la règle hein, parce que c'est le droit, mais j'ai un business à faire. Et c'est aux juristes d'avoir l'imagination, c'est pas les gens oui. Qui font le business.
Non, mais c'est vrai qu'il faut parfois beaucoup d'imagination pour arriver à trouver la solution qui va
voilà.
répondre
et moi, quand j'entends des étudiants qui disent « Oui, mais de toute façon, on nous demande que d'apprendre par cœur », quand je vois que les examens, je comprends le volume et tout ça, ce sont des QCM. Moi, je me souviens des oraux que j'ai passés avec des grands profs de droit où on pétait de trouille et du coup, bah, vous étiez obligé de travailler sur votre éloquence, sur votre maîtrise de vous-même, sur votre respiration, sur tous ces trucs-là qui, je pense, font partie de la vie et vous obligent à vous mettre en difficulté. Et ça, c'est peut-être le dernier élément et ça, c'est pas facile parce que c'est sympa le confort. Mais en fait, on progresse de la mise en difficulté.
Donc, il faut sortir de sa zone de confort.
Il faut sortir de sa zone de confort.
Et est-ce que vous pouvez nous parler de droit comme un H?
Oh bah droit comme un H, ouais, c'est une belle histoire. Au départ, c'est un problème de recrutement. C'est que quand vous avez 450 avocats salariés, que vous avez donc l'obligation de 6% de travailleurs en situation de handicap, donc vous devez avoir 6% de 400 d'avocats en situation de handicap. Et sinon, vous faites un chèque. Et quand vous avez une tagline qui s'appelle Building a Better Working World, vous dites bah tiens les garçons, les filles, on a fait ça depuis un moment, LGBT, ça y est, c'est fait. Donc dans les autres éléments de diversité, le handicap, c'est une bonne question quand même, et c'est une question en plus où il y a de l'argent. Donc on s'est dit bah comment est-ce qu'on peut faire? Et j'ai essayé de comprendre comment marchait tout ça, notamment Mathieu Juglard qui avait été collaborateur chez EY, qui est un type extraordinaire que j'ai jamais vu, qui était aveugle d'ailleurs, avec qui je faisais des concours de plaidoirie, donc il me charriait à chaque fois de raconter des horreurs sur le handicap et à me tourner en ridicule. Enfin voilà, et donc je lui ai demandé conseil, j'ai mené ma petite enquête et puis j'ai vu dans les écoles d'avocats personne, en tout cas personne d'identifié. Préparation, donc Pierre Croc, qui était président en plus de l'association des présidents d'IEJ, m'a dit bah il y a des tiers-temps Stéphane, mais visiblement ils ont pas l'examen. Donc on s'est dit bon, bah, comment est-ce qu'on essaie de résoudre le problème? Faut qu'on ait plus de gens dans les écoles d'avocats. Pour qu'il y ait plus de gens dans les écoles d'avocats, ah bah tiens, il y a un détail déjà, l'école d'avocats, si tu l'as fait en plus de 18 mois, ça marche pas, faut recommencer.
Ah oui, c'est vrai ça.
Donc bah faut qu'on trouve une école d'avocats qui nous permette de prendre son temps. Ah, ok, EDAC, merci.
Non, c'est la seule?
Yes. C'est la seule qui a accepté. Après, je pense que le CNB, tout ça, enfin, ça va bouger, mais faut toujours quelqu'un, vous savez, dans ces oui. histoires, qui ait le courage, voilà, qui se mette en difficulté,
on en revient au courage.
Deuxièmement, comment est-ce qu'on prépare les jeunes pour qu'ils aient le CRFP? En fait, il n'y a pas de préparation qui soit adaptée et tout. Les IEJ, c'était compliqué parce qu'il y a des questions budgétaires et tout, et malgré le support de Pierre Croc, c'était un peu difficile. Et Guillaume Giustiniani, fondateur de Prévaro, s'est emparé de la cause et a dit « Moi, je te prends tes gars, tes filles, et on fait tout, et on adapte les programmes. » Lui, en plus, était en enseignement à distance déjà et tout, donc mieux équipé que la fac. Et donc, bon, bah super. Donc après, faut aller identifier dans la fac. On a vu que, en fait, ça décrochait entre première, deuxième, troisième année. Et puis après, moi, il se trouve que le hasard a fait que dans mes cours, j'ai eu des jeunes en situation de handicap, notamment une. Vous n'êtes pas informé quand vous êtes enseignant. Les missions handicap, et c'est légitime, hein, protège les jeunes qui sont déclarés en situation de handicap. En plus, il y a un protocole médical de suivi tous les 6 mois qui est assez lourd. Enfin bon, je comprends que ce soit difficile, Mais après, quand vous enseignez à un étudiant qui est sourd et qui lit sur vos lèvres, ben moi j'aime bien bouger, j'aime bien aller au fond
des salles,
des
amphis
pour voir qui est sur Facebook et tout. Et le hasard a mal fait les choses, c'est que j'ai posé la question, bien entendu, à quelqu'un hyper sérieux qui travaille hyper bien et tout, un jour où c'était un peu agité et où la personne ne regardait pas du tout Facebook, sauf que comme j'étais au fond et que je la voyais se tourner la tête, mais je savais pas qu'elle était sourde. Je lui ai posé une question alors qu'elle était incapable d'y répondre et tout. Vous imaginez le malaise, y compris le malaise des camarades qui m'avaient bien entendu rien dit et la légèreté dont vous pouvez faire preuve quelquefois si vous êtes un petit peu nerveux. Et donc, je me suis dit quand même, c'est assez incroyable. En fait, nous, on ne sait pas, et d'ailleurs, quand on fait des formations, les gens découvrent qu'il y a simplement 4% du handicap qui est visible. Et donc, on s'est dit, bon, bah, voilà. Il y a une chose, c'est que, déjà, à la fac, il nous faut des gens qui accompagnent les jeunes parce que ils ont de la prise de notes et tout ça, mais c'est juste aller prendre un café avec des potes, hein, parce que quelquefois, c'est un peu compliqué quand vous avez des cannes anglaises et tout. Vous n'avez pas la même vitesse au troquet, hein. Donc, comment est-ce qu'on crée un petit peu de solidarité? Et puis, vous dites une troisième chose, il faut qu'on en parle. C'est un truc comme un autre, quoi. Pas pire, pas mieux et tout. En fait, on connaît pas. Bah, il faut faire de l'agitation autour et puis il faut montrer des gens, il faut trouver des rôles modèles. Faut trouver des gens où on dise oh mais non mais attends il est elle est pas handicapée tu déconnes et tout mais si c'est pas possible donc c'est vrai que
mais qui donne envie aussi d'y croire quoi.
Oui c'est ça dans les jeunes qui rentrent dans le programme moi je suis admiratif et on les fait monter sur les tribunes et tout du coup ça fait réfléchir les gens alors vous dites ben voilà il faut qu'on trouve des ambassadeurs qu'on les projette, il faut qu'on trouve des jeunes qui prennent des cafés et qui accompagnent et échangent et puis il faut aussi qu'on trouve des employeurs.
Oui, c'est ça.
Des stages d'expérience au départ. Si vous dites à quelqu'un, oui, tu vas prendre pendant 4 semaines un étudiant en situation de handicap. Alors, non. 1 semaine. Faut trouver la bonne personne au bon endroit. Faut préparer. Donc, on a monté des formations pour préparer des équipes qui allaient accueillir les stagiaires ou les collaborateurs en situation de handicap. Des trucs très simples qui sont sur les biais décisionnels, en fait. Hein. De manière horrible, Mathieu, je dis, mais je suis pas le Téléthon, enfin. Et voilà, d'essayer de dédramatiser tout ça. Et puis, là, on a fait un H-After, donc on fait des webinars avec le Covid pour parler de handicap de manière décontractée. Donc, on a montré, le premier, c'était H-Avocat. C'est possible. Et vous aviez donc bien sûr une collaboratrice que j'ai recrutée, que j'ai eu le plaisir de côtoyer, qui était même ma voisine de bureau dans une belle tour de la Défense. Un jeune que l'on suit depuis l'origine du programme, en fait, qui a été un des premiers à rentrer, Dylan, qui là cherche une collaboration en gestion de patrimoine. Donc, si vous cherchez un collaborateur en gestion de patrimoine, vous passez par Laetitia et on a un type qui est vraiment super. Donc, ça, c'était des deux générations sortantes proches du marché du travail. Et puis, Audrey de Gouec, élève avocate à l'EFB. Alors, c'est assez drôle parce qu'il m'a dit, pendant 2 ans, en fait, je me suis demandé si je venais vous voir, je venais pas vous voir et tout. Et puis, j'ai demandé à l'EFB, en fait, vous savez, il y a les élections des bureaux des élèves. Et en fait, elle voulait faire une section dédiée au handicap à l'école. Et elle a compris que électoralement, c'était peut-être pas forcément le bon créneau. Du coup, elle s'est dit, bon, je vais faire mon truc, je vais aller voir les gens de droit comme H. Et elle m'a dit, mais vous pouvez pas trouver un truc pour que moi, je ferai un podcast. Je dis, bon, écoutez, je voulais pas qu'on fasse un truc un peu plus marrant qui est carrément un webinar. Et ça, je l'aurais pas fait il y a 6 mois s'il y avait pas eu tout ce mince-là. Et elle me dit, bah, j'en ai jamais fait, mais pourquoi pas. Et donc, on est parti dans cette aventure. Et donc, elle anime. Et puis, on rajoute un candide. Donc, la première fois, c'est une étudiante de L2 à Amiens qui est non-voyante et qui a posé ses questions très ouvertement. On a fait quelque chose sur éloquence et handicap. Alors, on n'a pas osé le mettre sur les réseaux sociaux, mais c'est le titre officiel que Audrey a trouvé. D'ailleurs, c'est éloquence et handicap à quand la fin de la présomption d'incompatibilité.
Ouais, allons-y, c'est bien allons-y comme titre. Au moins, c'est,
ouais, et surtout ce qui est direct. On le fait encore un peu avec pudeur, peut-être. Et on avait Bertrand Perrier, qui a un monument et qui nous a raconté comment il se foutait de savoir si les gens étaient handicapés ou quoi. Enfin, c'est vraiment le cadet de ses soucis. Ce qui était important, c'est est-ce qu'il a du talent? Le reste, on s'en fiche. Il y avait Mathieu, bien entendu, qui est président de Droit comme H. Et puis, il y avait Arthur Sauzet, qui est célèbre parce qu'il a fait sa chaîne Teddy, mais surtout, il a fait un truc un petit peu intime. où il a raconté comment il avait soigné son bégaiement avec l'art oratoire. Et là, on avait une Candide, donc Tiffany, pareil, avec une spontanéité, et qui a pitché sans jamais l'avoir fait devant 100 personnes. Et là, qui s'est mis dans le débat. Et c'est extrêmement rafraîchissant. Et donc, vous avez une dizaine de jeunes.
Une dizaine de jeunes que vous accompagnez ?
Oui, qu'on accompagne. Et après, donc l'idée, c'est qu'ils aient un mentor et tout. Alors, c'est pas parfait, hein, c'est un peu de l'associatif. On essaie d'y mettre du temps, mais pas assez. Mais en tout cas, ça a l'air de faire bouger les lignes. Et si je compare, donc au départ, c'était un collectif avec les copains de l'Association française des juristes d'entreprise, avec Open Law. On essaie d'avoir la plus grande diversité parce que aussi, ce qui est important, c'est que les jeunes puissent choisir leur carrière. Ils sont pas tous faits pour devenir avocats. Donc on fait des enquêtes sur le handicap dans la profession d'avocat. Là, je suis en train de faire la deuxième édition. La première, on s'est dit, est-ce qu'on la sort ? On la sort pas. Il y a que 10 cabinets d'avocats qui ont répondu. On en avait appelé 60. On s'est fait perdre dans les standards et tout. C'est bon, on va raconter l'histoire. C'est un point de départ. On essaie de faire ça avec bienveillance. En fait, on n'a pas dit c'est bien, c'est mal. On était pareil avant vous. Les circonstances ont fait qu'on a progressé. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de progresser avec nous. Et c'est ça qui est important. Donc, on s'est dit, on sort cette enquête et on dit, c'est un point de départ et on le fait avec bienveillance. Et la restitution qu'on a fait chez CMS, Francis Lefebvre, avocat, qui très gentiment nous accueillait. Et je trouvais que c'était un moment agréable parce que ce qu'on était en train de raconter avait l'air de correspondre avec l'ADN du cabinet. Et l'un des membres du directoire, donc la structure de direction, a passé toute la matinée avec nous. Ce qui est quand même un investissement remarquable. Et dans la salle, en fait, vous aviez des associés de grands cabinets, vous aviez des directeurs juridiques, des directeurs fiscaux qui étaient là et qu'on ne voyait pas il y a 2-3 ans.
Oui, donc
et
vous voyez
donc
déjà
on voit les choses qui changent. On va lancer une enquête aussi, du coup, pour les directions juridiques, pour essayer de voir, en fait, quelle est leur sensibilité, où est-ce qu'ils en sont. On va le concours Tous en robe qu'on avait débuté l'année dernière.
Donc c'est un concours d'éloquence.
Qui est un concours d'éloquence mixte. Donc c'était secrétaire de la conf et prof de l'INCEA, donc notre partenaire, qui est l'organisme qui apprend la pédagogie pour apprendre aux personnes en situation de handicap. Donc on a eu notamment un de leurs enseignants qui a plaidé en signant. Incroyable. Enfin, c'est genre le mime Marceau, mais puissance 30, quoi. Voilà. Il y a eu des moments totalement incroyables. Et donc, ce que j'espère, c'est qu'on pourra continuer à parler de handicap et faire que ça passe, entre guillemets, dans les mœurs et qu'on ait de belles histoires à raconter, en fait. C'est vraiment ça, l'objectif. Et si on a fait ça, on aura un petit peu mis les gens en difficulté, les gens en situation de handicap comme les valides. On aura essayé de faire un petit peu de bien avec les réseaux que l'on a et d'avoir été utile. Et puis, surtout, on aura démontré une nouvelle fois que la différence, c'est quelque chose qui fait progresser. Donc, voilà.
Non, c'est une belle aventure. Très belle aventure, oui. Et en termes de recrutement, justement, par rapport aux étudiants que vous accompagnez, est-ce que ils arrivent à trouver facilement après des postes ou est-ce que c'est encore compliqué?
Alors, on est dans une situation très compliquée parce que, en fait, il y a une sorte d'omerta sur le handicap qui est un peu liée à la perception que l'on a de notre métier, y compris en entreprise. Et le fait que le handicap pour une majorité de gens ne soit pas visible et qu'en plus ne soit pas identifiable. Donc Alexia Rigaud, qui est cette jeune avocate qui donc bosse depuis 2 ans, a un problème de vision qui est stable, hein, qui bouge pas, mais qui l'oblige à grossir les caractères. Et du coup, elle a une fatigue oculaire. Elle a fait ses 3 premiers stages sans rien dire. Vous la voyez, c'est pas écrit dessus. Hein. Et sauf à aller derrière elle et passer derrière son ordinateur et faire attention, vous ne le voyez pas. Donc elle peut tout à fait travailler avec vous et vous ne voyez pas cette difficulté. Et en fait, ces 3 premières expériences, elle ne disait pas parce que, en plus, ce que j'ai appris, ce que Mathieu m'a dit et ce que beaucoup m'ont répété, c'est que on éduque les enfants dans la normalité. C'est-à-dire, en fait, l'objectif, c'est devenir normal. Donc, devenir normal, c'est qu'on ne voit pas votre handicap.
Oui, donc c'est pas pour le dire quand on arrive.
Voilà. Du coup, si vous êtes titulaire d'une RQTH, c'est vrai que vous ne la mettrez pas spontanément sur votre CV. Alors après, Dylan, qui est devenu très décontracté là-dessus, parce que quand on s'est rencontrés, c'était un petit peu différent. La dernière fois, il a dit aux jeunes, moi, de toute façon, je le mets sur mon CV. Et c'est un avantage. C'est que les gens qui veulent pas me voir, de toute façon, s'ils m'avaient vu et qu'après, à la fin de l'entretien, je leur dise les gars RQTH, s'ils m'avaient dit non, je crois qu'on n'aurait pas été amis. Là, au moins, on sait qu'ils n'ont pas envie de faire d'efforts. Et c'est cloche parce que, en fait, moi, mon seul handicap, c'est que je suis obligé de travailler avec un ordinateur. Ce qui, a priori, dans une boîte et avec un correcteur d'orthographe parce qu'il a un problème de vision qui fait que sur un écran, il voit pas la syntaxe des phrases. Mais le garçon, il a pas de problème de fatigue, de choses comme ça. Il a juste besoin d'un ordinateur. Donc c'est
ce qui en soi est quelque chose
qui en soi quand même assez basique. Donc en fait, c'est assez drôle de dire, bah voilà, si les gens savent pas franchir cette barrière, bah finalement, est-ce qu'ils sont intéressants à travailler avec vous? Alors, faut un certain recul, c'est pas facile à faire. Quand il faut trouver du boulot, il faut trouver du boulot. Donc c'est, mais c'est vrai aussi que son truc est plein de bon sens. Donc, je crois que les gens, en fait, quand vous bossez avec eux, c'est comment est-ce qu'on peut faire les choses pour que ce soit possible. Donc, on fait extrêmement attention aux premiers stagiaires, par exemple.
Oui, justement. Les stages, ça doit aider.
Oui, oui. Et c'est pas des stages photocopiés. Enfin, c'est des vrais stages. Et donc, nous, il faut qu'on assure l'intermédiation entre les jeunes et ses employeurs potentiels et qu'on arrive, je vais pas dire à mettre les gens au bon endroit, au bon moment, mais un petit peu l'entreprise qui, pour la première fois, accepte de prendre un stagiaire, donc a demandé classiquement un élève avocat M2, et j'avais quelqu'un qui était très jeune, mais avec du potentiel. Et surtout, il n'y a pas moins d'enjeux parce que les gens sont plus jeunes, mais il y a peut-être plus de tolérance. Enfin, quand vous êtes en deuxième ou en troisième année, déjà avoir un stage et tout, vous êtes super content. Donc, il peut y avoir plus de tolérance de la part de chaque côté. Et puis, quand vous avez des gens qui sont jeunes, vous avez plus de bienveillance parce que ça pourrait être vos enfants. Et on a dit, ce qu'on va faire, si vous en êtes d'accord, on fait une semaine pendant les vacances de février pour voir. Vous connaissez pas et tout, donc on a fait le séminaire de sensibilisation avant. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et la directrice juridique a dit non, mais on continue parce qu'elle a sa place, elle a montré des trucs. Et c'est vrai que déjà avec le programme de deuxième année, vous arrivez à faire pas mal de choses. Mais enfin voilà, il faut avoir aussi le job pour faire.
Non, ça c'est clair. Et quel conseil vous donneriez aux étudiants, élèves avocats et professionnels du droit pour affronter, gérer la crise actuelle, embrasser le futur avec succès?
Voilà, je pense pas être le meilleur conseil. La période actuelle, en fait, démontre qu'il est nécessaire d'avoir une réserve d'adaptabilité et d'enthousiasme et de courage. Avec une chance incroyable quand même, c'est que vous êtes jeune et donc vous avez tout l'avenir devant vous qui passe très vite, mais vous avez la possibilité de vous former. Il y a des ressources sur Internet, vous avez un cours d'initiation pour les juristes à la programmation fait par Harvard. Vous avez tout un tas de ressources qui existent.
Il y a un accès à l'information.
Voilà. Et vous avez en plus un regard de la société sur la reconversion, le repositionnement, la différence.
Qui est beaucoup plus souple.
Qui n'est pas du tout celui que les gens de notre génération peuvent avoir. Donc, si vous voulez, tous les possibles sont entre vos mains. Donc, croyez en vous. Et la deuxième chose, a priori, tout est possible. Demain, en fait, c'est vrai que le monde du droit est peut-être un monde qui sera plus tribal, moins solitaire, sauf dans certaines matières où on est encore dans des matières de solitaire. Mais il faudra peut-être beaucoup plus qu'on apprenne à chasser en meute, qu'on apprenne à être des entreprises. Ça veut dire beaucoup plus partager. Et en fait, c'est peut-être ça qui va être le plus dur pour ceux qui veulent exercer en cabinet, sauf à créer leur cabinet, dans ce cas-là, de faire un truc tip-top et d'avoir un projet. C'est en fait d'arriver à dégager un projet et d'être à plusieurs associés sur le même projet. Alors, vous voyez plein de créations de cabinets actuellement, donc c'est assez riche. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont des projets. Après, c'est comment est-ce qu'on arrive à rendre peut-être plus horizontale cette culture qui est quand même assez encore hiérarchique, et comment on arrive à avoir un modèle qui ressemble un petit peu plus à une évolution d'entreprise que les structures traditionnelles que l'on a pu avoir. Mais il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, tout est possible. Faut juste savoir ce qu'on veut, ce qui est honnêtement est pas facile.
Non, effectivement.
Ce qui est pas facile. Mais bon, il y a plein de tentations, donc c'est génial.
Ben, merci beaucoup, Stéphane.
Ben, merci à vous, et j'espère qu'on se retrouvera en Bretagne pour le match retour.
Avec plaisir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note, de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup, et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des questions, ou si vous voulez donner votre avis, ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation, n'hésitez pas, vous pouvez le faire sur les pages du Vent sous la Robe sur les réseaux. Donc il y a une page sur Instagram, une page sur Twitter, une page sur LinkedIn, une page sur Facebook, et sinon sur le site internet, sur la page dédiée à chaque épisode, vous avez la possibilité de laisser des commentaires. C'est vraiment fait pour ça, ça peut être très intéressant de débattre sur ces sujets, donc n'hésitez pas. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt.